à l'heure légale. Tant pis si nous ne rattraperons pas notre retard, nous nous arrêterons où cela tombera. Les points que nous devons examiner ce matin sont très importants, c'est le cœur de l'ensemble de notre étude, me semble-t-il. Donc il ne faut pas que je comprime avec excès ce qui est à considérer pour la troisième étude, et bien sûr nous achevons la seconde. Est-ce que Madame Madeleine Huc voudrait nous conduire dans la prière? Amen. Nous avons considéré hier les deux premières espèces de théologie féministe, la théologie féministe évangélique, qui, au moins dans les grandes lignes, professe le respect que nous voulons aussi avoir à l'égard de l'Écriture sainte, et la théologie féministe libérale, qui, elle au contraire, inclut dans son attachement à la tradition chrétienne et à l'héritage biblique le principe d'une critique, parfois très dure, contre ce qui paraît aux féministes chrétiennes libérales ou aux féministes chrétiens libéraux, ce qui paraît l'influence des motifs les plus désastreux du système patriarcal, de l'androcentrisme, vu de toute la réalité où l'homme se trouve au centre. Nous avons évoqué la similitude, le parallèle qu'il y a entre les entreprises d'interprétation biblique que les féministes libéraux ou libérales nous proposent et ce que Bultmann, par exemple, parmi les libéraux, a tenté de faire en éliminant tous les mythes du Nouveau Testament. Il y a une troisième espèce dont il nous faut au moins dire quelques mots ce matin. La critique à l'égard du christianisme s'accuse, se gonfle à tel point que le lien qui subsiste encore chez les libéraux se coupe. Une théologie féministe post-chrétienne ou simplement antichrétienne, non-chrétienne et antichrétienne, s'est développée ces dernières décennies. Elle se porte bien, les adeptes sont assez nombreux ou nombreuses, et je peux indiquer au moins quelques noms et quelques orientations. La théologienne sans doute la plus représentative de ce courant post-chrétien, c'est une américaine à nouveau, une américaine catholique, à l'origine, Mary Daly. Elle a été l'une des premières, dans les années 60, à interpeller son Église au nom du féminisme. Elle a conquis d'emblée une notoriété considérable. Mais d'abord avec l'espoir que l'Église accepterait de se réformer sur la question du rapport entre les sexes, ou ce que les féministes américaines appellent de plus en plus « genders ». Je crois qu'il est bon que je vous indique un peu ce que j'en ai de cette terminologie. Parce que le mot « sexe », qui est le mot traditionnel, pour désigner les deux moitiés d'humanité, et d'ailleurs le mot vient du verbe « couper », c'est carré, parce que c'est la distinction qui coupe l'humanité en deux, que la distinction des sexes. Au lieu d'employer donc ce mot traditionnel qui fleure trop la biologie, ce qu'impose la nature, les féministes anglo-saxonnes emploient maintenant de manière courante le mot « gender ». le terme veut évoquer non seulement ce qui caractérise, selon la nature, les hommes ou les femmes, vous avez bon, les deux genders, mais aussi tout ce que l'histoire en a fait, toute la situation sociale qui est associée. Alors le terme vient en fait de la grammaire. Le mot gender est employé en anglais pour les genres masculins et féminins en grammaire, dans le langage. En fait, là où nous avons un seul mot en français, le mot genre, les anglo-saxons emploient trois mots différents, ce qui leur permet de spécialiser le terme gender, comme je viens de le dire. Vous avez le sens que nous mettons en œuvre quand nous parlons de genre dans la classification des êtres vivants ou de genre humain. Alors là, les anglo-saxons emploient carrément le terme latin, ils prononcent genus. Ils emploient le terme latin qui a donné genre en français. Genus, generis, alors ils prononcent genus. Ou alors, dans le langage plus courant, moins scientifique, c'est kind ou race. Par exemple, ils ne disent jamais le genre humain, ils disent the human race. Ils n'ont pas le mot race, ou alors humankind. Donc vous avez ce sens-là de genre comme classification entre la famille et l'espèce dans l'ordre des formes vivantes. Vous avez le sens de genre littéraire. Alors là, ils emploient le mot genre. Ils ont le mot français. Ils disent « literary genre ». Et puis, le genre masculin ou féminin, donc grammaticalement, ils emploient le terme « gender ». Et c'est à partir de cet usage, et on peut pas transposer facilement en français, qui fait qu'il n'y a pas la même différenciation, que le terme « gender » est devenu le terme très courant parmi les féministes pour désigner le sexe dans sa réélaboration socioculturelle. En même temps, c'est pas tout à fait innocent. Je ne suis pas très, très heureux quant à moi de cet usage du terme gender. Je crois que cela cache une mauvaise linguistique ou un mauvais usage de la linguistique qui confond la référence au sexe véritable avec le genre grammatical. Ce qui ne se confond nullement. D'après la logique des féministes, souvent, croyant s'appuyer sur la linguistique, enfin nous avons des linguistes parmi nous, j'espère ne pas dire de bêtises, elles me reprendront si je me trompe, mais d'après cette logique de certains féministes, que je crois mal fondée linguistiquement, le seul fait que le mot commun pour les êtres humains est du masculin, en français, par exemple, l'homme, en grec ou en latin, homo ou anthropos, il y a un dommage créé aux femmes. Les femmes sont du même coup infériorisées. Je crois que ça ne suit pas du tout nécessairement. En fait, en français, nous avons le mot de personne, qui est du féminin, qui depuis des siècles et des siècles s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. On dit une personne, aussi bien pour un homme. Ce n'est pas ça qui a renversé le système de domination masculine que les féministes elles-mêmes dénoncent, n'est-ce pas? Ça n'a vraiment pas d'incidence. Et quand on dit une brute, on pense plutôt à un homme. Quand on dit un laideron, on pensera plutôt à une femme, généralement dans le langage courant, alors que c'est un mot du masculin, n'est-ce pas? Vraiment, il y a une confusion entre le choix du masculin ou du féminin qui est en grande partie aléatoire dans une langue, et puis ce qui caractérise la condition sociale liée au sexe. Ce n'est pas sur ce seul exemple que je crois abusif le recours à une certaine linguistique ou une pseudo-linguistique dans le débat, mais c'est une illustration. Et en plus, Je trouve que l'usage de ce mot gender pour désigner donc, soit les hommes d'un côté, soit les femmes d'un côté, deux genders qui s'opposent, est malheureux si l'on considère l'étymologie. Car, étymologiquement, le genus, c'est l'ensemble des êtres qui sont engendrés. C'est la même racine que le verbe engendrer. Qui sont engendrés d'un même principe. C'est le sens premier dans la famille étymologique du mot genre. Alors s'il y a quelque chose qui est clair, c'est que ce ne sont pas seulement les femmes qui engendrent les femmes et les hommes qui engendrent les hommes, c'est que précisément hommes et femmes sont ensemble pour l'opération d'engendrement et d'être engendrés. Donc le choix du terme gender, étant donné son étymologie relativement lointaine, n'est pas non plus, me semble-t-il, très, très heureux. Alors, je voulais le signaler au passage. Donc cette Mary Daly avait combattu dans les rangs de l'Église catholique, mais comme une libérale, comme une moderniste, dans un premier temps, et s'était templée et rendue assez fameuse. Elle a été une des pionnières, mais elle a conclu assez vite que la cause était désespérée, que l'Église et l'Écriture étaient trop désespérément machistes, male chauvinistes, trop désespérément marquées par la mentalité patriarcale pour qu'on puisse retenir même des bribes de christianisme. Et elle a fait le pas et a écrit un livre « Au-delà de Dieu le Père » où elle a carrément affiché sa rupture avec le christianisme. Elle a repris, par exemple, à son compte, de manière positive, le thème de l'Antichrist. Je vous cite ce que j'ai noté, là, dans le livre de Stonquet, en fait. L'Antichrist et la deuxième venue des femmes sont synonymes. Cette deuxième venue, second coming, n'est pas un retour du Christ, mais une nouvelle arrivée de la présence féminine, qui fut autrefois forte, puissante, mais qui a été enchaînée depuis l'aube du patriarcat. Donc elle reprend le thème de la seconde venue, mais c'est la seconde venue après ce matriarcat mythique des origines où les femmes étaient au pouvoir, maintenant une deuxième venue du pouvoir féminin, et c'est l'Antichrist. Elle le dit, elle l'affirme avec force, puisqu'elle rompt ouvertement avec le christianisme. Et je crois que c'est Hélène Tanquet qui résume sa doctrine, mais je crois que c'est pratiquement une citation exacte également. Le péché, c'est le sexisme. Les femmes sont innocentes. Le Christ ne peut sauver. Voilà en quelque sorte son credo de féministe post-chrétienne. Alors, elle-même choisit donc ces thèmes qui restent encore dans la contradiction marquée par la tradition chrétienne. D'autres vont plus loin dans le sens d'une revalorisation des thèmes du paganisme ancien. Et vous avez tout un courant puissant, qui n'est pas tellement représenté par Mary Daly, qui est un retour au culte de la déesse. L'affirmation que la divinité est féminine dans son fond, que c'est la vraie divinité, comme on le savait à l'aube de l'histoire humaine, où la grande déesse mère était la forme principale de révélation du divin, reçue et honorée. Ce culte de la grande déesse mère doit être récupéré aujourd'hui pour qu'il y ait libération enfin des femmes, pour que le pouvoir patriarcal soit brisé et pour que ce monde qui souffre si gravement de l'agressivité masculine connaisse enfin la réconciliation grâce aux qualités féminines qui correspondent à la grande déesse. Si Dieu est mal, alors le mal est Dieu. Voilà ce que disent ces féministes. Mais si Dieu est femme, alors la divinité va s'exprimer par la sororité des femmes qui luttent pour un monde différent. Donc ce culte de la déesse est développé avec une branche particulièrement intéressante, la branche Wicca. Wicca
c'est son nom officiel, hein, enregistré. C'est le vieux mot anglais, un mot de type contract, pour witchcraft, c'est-à-dire la sorcellerie. Ce mouvement Wicca est une revalorisation de la religion de type féminine, caractérisée par le rôle des sorcières, valorisée. Le mouvement Wicca, représenté par exemple par une femme qui a pris le surnom de Starhawk. Donc ce vœu, la résurrection d'un mouvement de sorcellerie ancienne lié au culte des forces féminines de la nature. Et c'est écrit sur ses bannières en quelque sorte. Et il y a quelques contacts avec le Nouvel Âge. Nous entrons dans des zones où le grand syncrétisme, le grand mélange du Nouvel Âge est tout proche. Mais c'est quand même un mouvement qui est tout à fait distinct. Il y a aussi Naomi Goldenberg qui est dans ce mouvement Wicca. Et enfin, alors, je ne veux pas développer trop longuement, vous avez aussi très proche du Nouvel Âge une alliance entre le féminisme et l'écologie, ou une certaine écologie, qui constitue l'une des forces dans le mouvement actuel. Le terme d'écoféminisme a, paraît-il, été inventé en 1974 par un Français, mais je ne le connais pas du tout, François Daubonne. Une théologienne évangélique qui enseigne à Vancouver, Lauren Wilkinson, a tout un article sur la spiritualité de Gaïa qui associe le féminisme et l'écologie. Dans un numéro de Temelios que je ne vous ai pas signalé en bibliographie, celui d'avril 93, mais je vous ai déjà dit hier que notre prochain numéro de Fac Réflexion va vous donner la traduction de ce texte qui est fort, fort intéressant, fort bien écrit par cette théologienne qui est critique bien sûr à son égard, mais qui présente l'écoféminisme dans ses grands traits. J'avais écrit un tout petit texte aussi, alors là c'est pour l'avènement m'avait demandé quelque chose. Je peux vous signaler que ce texte de deux pages a été publié sur... Je pense que je l'avais intitulé Natura Femina, ce qui correspond à un thème de ce mouvement, de la nature est foncièrement féminine. La nature, c'est la mère. Il y a une alliance dans les réseaux symboliques traditionnels entre la nature et la féminité. Ce qui se redouble en écologie par l'association des principes de sollicitude, d'accompagnement non violent qui sont associés à la féminité. Certains critiques d'ailleurs, Hélène Storke, je crois entre autres, remarquent la contradiction qu'il y a dans le discours de ce type de féminisme. D'une part, on nous dit les stéréotypes du masculin et du féminin sont entièrement façonnés par l'évolution sociale. C'est un produit de la société. C'est en fait pour reléguer les femmes dans une position inférieure dont elles ne se révolteraient pas, que les qualités féminines ont été définies comme des qualités de patience, de douceur, de sollicitude, etc. Et puis d'autre part, alors, dans cette perspective écoféministe, vous avez une sorte de reprise de ces qualités féminines, alors exaltées comme la vraie révélation du divin et comme ce qui permettra la guérison de notre planète ensanglantée et quasi divine. Le nom Gaïa, c'est le nom divin de la Terre, c'est le mot grec pour la Terre, gai, mais sous la forme plus ample, c'est la même étymologie, hein, c'est une variante en quelque sorte du mot gai que nous avons dans géographie, hein, gai. C'est une variante qui était utilisée pour la déesse Terre. À coup sûr, ces formes de féminisme post-chrétienne, non-chrétienne, anti-chrétienne, néo-païenne, tout ce que vous voudrez, nous font frémir. Et il me semble qu'il faut dire deux choses d'emblée. D'abord, attention de ne pas faire d'amalgame trop rapide et de ne pas condamner le féminisme évangélique parce qu'il existe de telles aberrations de féminisme néo-païen. Ce serait une procédure inéquitable contre laquelle on pourrait à bon droit protester. On condamnerait aussi bien tout le christianisme lui-même à partir des aberrations qui se sont produites dans ses marges. Combien de sectes épouvantables qui, en quelque sorte, ont dérivé à gauche ou à droite du christianisme lui-même. Donc ce n'est pas la seule existence de ces formes de féminisme qui donne le droit de condamner le féminisme que par exemple, Hélène Stonquet représenterait. C'est la première chose à dire. La deuxième, c'est de dire quand même qu'il y a des associations. Je vous ai dit que vous trouvez dans les mêmes livres collectifs des écrits de féministes très proches des évangéliques et puis de Wicca. Il y a des liens. Dans un livre que je n'ai pas cité, bibliographie non plus, que je lis ces derniers jours, en fait, c'est M. Clémenceau qui m'en a fait cadeau, un livre d'un théologien américain appelé Ted Peters, il y a citation d'une de ces théologiennes évangéliques féministes, Virginia Mollenkott, qui dit si Dieu est woman-like, si Dieu a des traits féminins, alors la femme est God-like. La femme est comme Dieu. Et ce Peters, qui n'est pas un théologien évangélique lui-même, mais enfin, il proteste quand même en disant, c'est curieux, la femme là n'est pas God-like, semblable à Dieu par la sanctification, par la vertu, par la foi, par... Non, c'est simplement comme étant femme. D'après la citation qui est faite de Virginia Mollenkott, une théologienne pourtant classée du côté évangélique. Donc il y a des adhérences, comme on dirait en médecine ou chirurgie. Et donc l'existence de ces féminismes post-chrétiens doit au moins nous avertir. Elle ne donne pas le droit de condamner, mais doit nous rendre vigilants et nous porter à considérer les questions de principe en jeu et de méthode avec d'autant plus de rigueur. Alors c'est ce que nous voulons essayer de faire dans la troisième étude. Vous voyez, je me suis arrangé pour que la fin de ma deuxième étude serve d'introduction pour la troisième. Question de méthode, un titre que j'emprunte à Sartre, mais évidemment, il n'avait pas le droit d'auteur sur une telle expression. J'évoque un certain nombre de points délicats concernant la méthode prise au sens large. Je ne veux pas trancher ce matin sur tous les points. J'ai des préférences, parfois des choix tout à fait arrêtés à propos des questions qui sont en cause et qui, je crois, aiguillent ensuite l'étude de la Bible, l'étude des grands problèmes qu'agite la théologie féministe. Mais je ne voudrais pas trancher. À l'occasion, je vais donner, dans les instants qui viennent, déjà quelques idées de l'orientation que je choisis. Mais je voudrais surtout faire apparaître les lieux où une réflexion est nécessaire, où il ne faut pas foncer tête baissée, où il faut s'interroger et se dire quel est là le principe qui est le plus sain, celui que je vais devoir suivre. Alors, il y a la question de la lecture objective que nous avons déjà un peu touchée hier. Un certain nombre de féministes, au moins, et les féministes peut-être les plus influentes, comme Elisabeth Schussler-Fiorenza, le féminisme qui est une autre version de la théologie de la libération appliquée aux femmes, qui rejette l'idéal d'une lecture objective du texte. Il y a un sens dans le texte, il est là, il est indépendant de ce que je pense, il existe donc objectivement, et il s'agit que je le découvre, tel qu'il est. Donc, que j'essaye de faire aussi peu interférer mes propres choix, engagements et tout dans la lecture. Cet idéal que j'appelle donc objectiviste est remise en cause, comme je vous l'ai expliqué. C'est une illusion, en fait c'est une ruse. D'une part de la bourgeoisie, disent les théologies de la libération politique, marquée de marxisme, et d'autre part du gender masculin, pour donner une apparence de légitimation à son pouvoir. Mais ce n'est que dans l'engagement subjectif, toute lecture est subjective, ce n'est que dans l'engagement subjectif pour la libération des opprimés, et des opprimés, que l'interprétation peut atteindre le sens de la révélation. À coup sûr, cette critique de l'idéal objectiviste peut faire valoir des arguments sérieux et s'accorde bien avec au moins un courant très fort de la philosophie des sciences aujourd'hui. L'idéal purement objectiviste dominait jusque dans la première partie du XXe siècle, et à vrai dire, c'est le mouvement néo-calviniste en philosophie qui a été le premier, je crois vraiment qu'on peut le dire, à le remettre en cause et à faire apparaître le rôle des présuppositions au départ de tout exercice rationnel, et donc aussi celui de l'interprétation. Ça a été le grand thème d'Abraham Kuyper, fondateur du néo-calvinisme, grand théologien évangélique réformé des Pays-Bas, et de ceux qui ont suivi son école à Amsterdam avec Herman Doyever, et le mouvement qui s'est développé parallèlement outre-Atlantique avec tout spécialement Cornelius Van Til. Moi, je dois beaucoup à ce mouvement, en gros au moins je peux dire que je m'y rattache. C'est historiquement, parce que l'œuvre de Doyever et de Van Til date des années 20 et 30, c'est là qu'ils ont lancé leurs idées, c'est là qu'ils ont commencé à frayer ce chemin. Incontestablement, ce mouvement a été le premier à dire si fort que des présupposés inéluctablement sont en jeu. Et d'une part, l'inspection de la façon dont toute théorie scientifique s'élabore, la manière dont des axiomes et des postulats sont inéluctablement à la base. La raison ne peut pas simplement se fonder elle-même en prétendant imposer universellement ces postulats. C'est par l'inspection aussi du rôle des paradigmes, selon l'expression d'un certain Kuhn, qui a écrit un grand livre sur la structure des révolutions scientifiques. Les paradigmes, ce sont ces schémas intégrateurs par lesquels nous rassemblons et nous ordonnons toutes les données que nous essayons de penser ensemble. On ne peut pas s'en passer. Autrement, il y a une avalanche d'informations qui viennent. C'est comme quand on est englouti sous une avalanche, on ne peut plus respirer, on n'y voit plus. On a besoin d'une grille, c'est parfois aussi un terme employé, d'un paradigme. Or, il est élaboré avant que la théorie soit faite. Il est posé avant. Et cela semble donner du crédit à la thèse de l'objectivité impossible. Cependant, je mets en deuxième point, son maintien dans le discernement. Il ne s'agit pas de nier qu'effectivement des présupposés entrent dans l'affaire, et toujours, et que nous travaillons avec des paradigmes, des modèles, des supermodèles, grâce auxquels nous affrontons les faits expérimentaux et nous les façonnons. Il s'agit de dire que malgré ce rôle des éléments que nous apportons au travail scientifique, l'objectivité reste une valeur limite vers laquelle tendre. Qu'il s'agit, à l'aide de ces présupposés, de trouver ce qui ne dépend pas de nous.
Est-ce que vous ne pensez pas comme ça s'est apparu en 1930, c'est lié par exemple au phénomène de la mécanique quantique? On sait très bien que, par exemple, s'il y a un observateur qui regarde une expérience, le système va se comporter de manière différente.
Je crois que ces auteurs n'ont pas été influencés par la révolution quantique, que c'est plus tard qu'ils ont dû l'affronter et que c'est encore en débat. Pour autant que je sois informé, il y a quand même aussi diversité d'interprétation, même de cette implication de l'observateur ou de l'observation que la théorie quantique met en relief. Il y a une interprétation de celle de Copenhague qui semble majoritaire et qui insiste beaucoup donc, sur, on pourrait dire, l'implication du sujet, une subjectivité essentielle. Mais ce n'est pas la seule, d'après ce que j'ai lu. Moi, je ne suis qu'un amateur. Il faut toucher de ces points. Non, il y a peut-être eu quand même une certaine influence un peu différente de Poincaré. D'Henri Poincaré, de ses réflexions sur la science et l'hypothèse qui datent quand même du début du siècle. Alors, quand je dis, en gros, que c'est ce mouvement néo-calviniste qui a été le pionnier, je ne veux quand même pas ignorer qu'il y a eu, surtout à partir des mathématiques, des réflexions sur l'axiomatique qui ont été de la même époque à peu près. Et il y a bien sûr aussi un lien avec, je dis ça pour ceux qui ont plus de philo parmi vous, avec la tradition kantienne. En fait, d'Hoyer surtout a été formé, bien sûr, à l'ombre de Kuiper, mais aussi dans le dialogue avec la tradition néo-kantienne. Et c'est une thèse qui répond aux néo-kantiens que la sienne, mais en même temps qui est influencée par eux, que très souvent on est influencé par les adversaires principaux avec lesquels on se bat. Donc il y a bien sûr un contexte, effectivement, historique et philosophique, qui a eu son effet sur la production de la théologie néo-calviniste. Mais, sans pouvoir du tout entrer dans le détail, c'est pas notre sujet aujourd'hui, je crois personnellement que malgré la validité des arguments que j'ai évoqués il y a quelques instants, il faut maintenir comme un idéal limite vers lequel tendre, et qui garde son sens, l'idéal de l'objectivité scientifique. Les présupposés eux-mêmes étant ceux que Dieu nous inculque, et n'étant pas le simple effet de notre démarche arbitraire dans une perspective néo-calviniste. Et un sens, un ordre existant indépendamment de nous, dans la réalité. Un sens qui, en dernière analyse, remonte à la structuration du réel par la parole de Dieu, par le logos, le verbe divin. Alors je signale qu'il y a un ouvrage collectif qui défend cette thèse. Bon, il est moins néo-calviniste que je ne serais, cet ouvrage, mais je vous le signale quand même, rédigé sous la responsabilité de Paul Helm, qui est un philosophe anglais calviniste, mais pas néo-calviniste, évangélique, que je le connais personnellement. Il a écrit un livre avec d'autres intitulé Objective Knowledge, qui essaye de répondre aux formes les plus relativistes de la thèse qui dit que, de toute façon, c'est l'engagement subjectif du savant qui détermine finalement tout ce qu'il trouve. En interprétation biblique aussi, affirmer la nécessité d'un engagement, mais en refusant le subjectivisme qui accompagne cet accent chez un certain nombre de théologiens aujourd'hui. Alors c'est un point de grand débat, et je le mentionne donc en priorité. Parmi les références de type solide, relativement solide, qui donne de l'objectivité à la recherche, il y a le recours à ce qui est admis et qui a quand même été mis à l'épreuve singulièrement, à ce qui est admis par les linguistes, comme l'interprétation porte sur des œuvres de langage. Cette science qui a connu quand même de très beaux développements au XXe siècle, qu'est la linguistique, est une science auxiliaire très précieuse pour le travail d'interprétation biblique. Or, je crois que sur certains points au moins, dans le débat sur le féminisme, on voit que le recours à la linguistique n'est pas bien lucide, pas bien formé, qu'il manque de sérieux. Alors il y a des écoles diverses, c'est bien en linguistique. Et je donne pour ma part ma confiance à l'école qui est la plus proche du terrain de la traduction en particulier, mais qui est très reconnue. L'école qui est marquée par Eugène Neuda, grand linguiste, et d'autres qui lui ont été associés. Un de ses collègues fait docteur honoris causa en Sorbonne, il était venu parler aussi ici. Je me rappelle avoir traduit son intervention. Donc, il y a une école associée à la mission Wycliffe, à l'Institut de linguistique et aux travaux de l'Alliance biblique universelle, en particulier, en vue de la traduction biblique, mais qui a fait une percée reconnue en Sorbonne mondialement. Il s'agit vraiment d'une école linguistique très, très respectée. Et je signale un ouvrage que j'aimerais pouvoir faire lire à tout étudiant en théologie, même tout lecteur de la Bible. C'est le livre de Jean-Claude Margaux. Ça a été en fait son doctorat à S-Lettres, en linguistique. Traduire sans trahir. Qui est préfacé par un grand linguiste français, non chrétien, et qui fait une synthèse remarquable. Alors, quand on respecte les règles au moins de cette linguistique-là, qui semble la plus saine et qui est reconnue, qui fait autorité, je crois qu'on s'aperçoit que nombre d'arguments jetés dans le débat ne reposent pas sur grand-chose. Alors, j'ai mis entre parenthèses qu'on fait tête. Je vous ai dit un mot déjà, hier, de l'argumentation fondée sur l'hypothèse lancée dans les années, à la fin des années 50, je crois, que le mot tête signifierait source et non pas lieu d'autorité, organe d'autorité, dans les textes du Nouveau Testament, en particulier ceux donc où le rapport entre l'homme et la femme est en cause. Simplement pour illustrer un peu ce que je dis du rapport à la linguistique, en général, de l'importance de la méthodologie, j'ai rencontré cette thèse la première fois dans un article de la revue anglicane évangélique Churchman. Il y avait là un article, je n'avais pas rencontré la thèse auparavant, qui disait, oui, bien sûr, nous sommes habitués, nous, avec notre mentalité gréco-latine, à considérer que le mot tête signifie l'autorité, mais, et il utilisait là la vieille scie de l'opposition entre mentalité hébraïque et mentalité gréco-latine, mais en hébreu, le mot tête ne signifie pas l'autorité, mais signifie la source, l'origine, la source. Alors, je prends ma concordance, je passe un bon bout de temps à passer en revue tous les usages du mot tête en hébreu, écrasant sur 800 et quelques usages, 750 signifie l'autorité de la manière la plus évidente. Le mot rosh est un mot courant pour désigner les chefs de tribus, etc. Alors, j'écris dans Zictus un article où je montre cela, quoi, à quel point cette thèse est complètement dépourvue de fondement. Quelques années après, 2 ou 3 ans, je lis un article de Berkeley Mikkelsen et de sa femme, Alva, je crois, Mikkelsen. Je trouve la thèse. Oui, bien sûr, en hébreu, tête veut dire, oui, roche, tête, signifie l'autorité. Mais ce n'est pas le cas en grec, le Nouveau Testament est écrit en grec, etc. Exactement l'argumentation inverse. Alors, en fait, c'était donc un peu plus sérieux, c'est vrai. Mais je ne pense pas que c'était quand même bien fondé non plus. Alors c'est là qu'il y a eu riposte par Wayne Grudem, d'autres qui sont intervenus. Le débat a continué. Je l'ai étudié très à fond avec une correspondance avec Gilbert Bilézikian. Il m'a envoyé un travail de 30 pages et j'ai épluché chacun des exemples qu'il donnait. Je crois pouvoir dire que la thèse, même quand on considère le grec seulement, ne tient pas non plus. Ce qui est vrai pour la différence entre l'hébreu et le grec, c'est que en hébreu, la métaphore est tellement usée, tellement courante, que le mot « rosh » signifie, de manière alors tout à fait habituelle, « chef », comme en français le mot « chef » en fait. On ne pense même plus à l'image. Et ce n'est pas le cas en grec pour « kephalē ». Le mot n'est pas devenu à ce point courant dans ce sens d'autorité pour que, qu'on oublie la métaphore, qu'il y ait tout simplement là un terme du lexique signifiant l'autorité qui serait képhalè. Mais, une fois qu'on a vu ça, reste encore toute la question à étudier de l'usage métaphorique libre. Qu'est-ce qui, à partir des usages divers du mot képhalè, est le plus plausible quand le mot est employé à titre métaphorique, comme une image, hein? Ce qu'il est dans les textes comme Éphésiens 5, 1 Corinthiens 11, etc. Qu'est-ce qui est le plus plausible? J'ai passé en revue tous les exemples que donnait Billy Zikian, il a été en chercher. Je n'ai pas trouvé un seul exemple où le mot képhalè signifie la source dans un rapport entre personnes. Le sens de bout, d'extrémité, pour un bâton, pour etc., on le rencontre quelquefois, mais je n'ai pas un seul exemple où, de manière qui soit à peu près indubitable, dans un rapport personnel, interpersonnel, il y ait métaphore pour l'idée de source. En revanche, il y en a, bon, c'est beaucoup moins nombreux qu'en hébreu, mais il y en a un certain nombre, où c'est le sens de l'autorité. Alors, je conclue pour ma part de manière très très ferme que de loin le plus probable c'est que c'est le sens d'autorité comme on a jusqu'aux années 50-60, personne n'en a jamais douté, hein, ça paraissait la seule possibilité de lecture. Alors il y a eu plusieurs études indépendantes qui ont été faites dans ce même sens, mais je signale, parce que ça me paraît le plus intéressant sur ce sujet, la rétractation de F.F. Bruce à ce propos. F.F. Bruce, Frederick Fiery Bruce, a été un spécialiste du Nouveau Testament très célèbre de la dernière génération. Il est mort assez récemment. Il a exercé une influence énorme. Une personnalité phare du mouvement évangélique dans le domaine des études bibliques, avec une position large sur certains points, n'étant pas la position évangélique classique, et je pense que c'est dommage. Mais enfin, en grosso modo, il a rendu de très grands services, très précieux, à la cause évangélique, et son autorité scientifique a été énorme. Comme il était, je crois, toujours assez soucieux d'ouverture aux idées nouvelles, à ce qui prenait dans le milieu scientifique, il a donné son appui à la thèse képhalè source. Et donc, on s'est, bien sûr, référé à son nom, avec tant de crédit. Et Turner, sur la linguistique et l'exégèse biblique, un livre assez récent, où ils étudient cette question que je vous présente, la question du sens de képhalè, et où ils montrent que ça ne peut pas être source, que c'est bien l'autorité. Dans sa recension de cet ouvrage, c'est peut-être l'un des tout derniers textes qu'il a écrit avant sa mort, Bruce a rétracté ses vues antérieures. Et il s'est déclaré convaincu par Cotterell et Turner. Alors je trouve intéressant, bon, c'est un beau signe de son honnêteté intellectuelle, mais c'est aussi, me semble-t-il, le symptôme de la faiblesse de la thèse qui a beaucoup circulé, qui a plu, parce qu'elle semblait aller dans le sens de la vogue. Voilà, donc une illustration, je ne vous donne pas toutes les données bien sûr, mais une illustration en ce qui concerne le recours à la linguistique. Deuxième grand secteur, où les questions de méthode sont en jeu, l'effet du contexte socio-culturel. Là encore, reconnaître le bon droit, c'est comme pour le rôle des présupposés, l'engagement du sujet, inéluctablement, il ne s'agit pas de nier cela. Il ne s'agit pas de revenir à une vision aplatissante des textes. On oublie complètement à quelle époque ils ont été écrits, ou même dans la Bible, on prend un texte du temps de Moïse et puis un texte de l'Apocalypse, et puis on met juste les deux références, comme si c'était exactement au même moment, dans la même situation qu'ils avaient été émis. Il ne s'agit pas de revenir à ça, non. Il est vrai que toute parole a des liens de contexte, que les cultures sont diverses, que les systèmes symboliques ne sont pas les mêmes, et que toutes les paroles ne prennent leur sens que dans les cadres de tels systèmes. Mais l'abus est aussi possible. Une fois que ces considérations ont été acceptées, il faut noter que certains ou certaines s'en servent pour éliminer tout ce qui les gêne, simplement. C'est un abus très facile de ces considérations contextuelles. Là où ça nous plaît, disons, ben nous recevons cela, pas de souci quant au lien contextuel. Là où ça nous déplaît, alors, oh ben c'était le premier siècle, c'est tout. C'est le conditionnement par les idées du temps, c'est le rapport à une situation. Par exemple, dans la première épître à Timothée, quand Paul interdit aux femmes de prendre autorité et d'enseigner, c'est parce que à Éphèse, à ce moment-là, il y avait des gnostiques qui diffusaient une doctrine tout à fait insupportable. Alors c'est pour ces femmes-là qu'il donne l'interdiction. C'est lié à ce contexte tout à fait limité. Ça ne peut pas du tout s'appliquer à nous. Vous avez là, me semble-t-il, un abus du principe juste du lien au contexte. Il faut prendre garde de ne pas dépouiller de son autorité sous prétexte de situation historique et culturelle définie, ce qui est parole de Dieu pour tous les siècles. D'abord, certes Dieu ne l'a pas dit dans l'intemporalité, et il faut bien comprendre, estimer sur quelle situation il l'a dit, mais attention. Alors qu'est-ce qui peut nous aider, deuxième point, qu'est-ce qui peut nous aider à ne pas dissoudre dans la diversité des situations particulières, historiques et culturelles, l'autorité du message de Dieu, de l'enseignement inspiré, c'est de reconnaître deux choses que je mentionne ici, les invariants et la transcendance du vrai. Alors, que signifient ces termes? Les invariants d'abord, il s'agit de dire les systèmes symboliques dans les diverses cultures diffèrent, c'est sûr, mais jusqu'à un certain point seulement. Il y a des invariants de la condition humaine. Il y a des éléments communs à toutes les cultures et à toutes les époques qui font qu'une traduction sera possible et qu'on ne pourra pas enfermer quelque chose qui est dit dans une situation donnée dans cette situation-là. Elle me concerne aussi parce que le monde d'Abraham n'est pas un monde qui me soit totalement étranger. Oui. Alors, c'est très intéressant, je ne l'ai pas tenté avec moi, mais j'aurais une citation d'un intellectuel français qui est vraiment très reconnu, qui a beaucoup d'autorité, Marcel Gauchet, qui il y a un ou deux ans, c'est une citation que j'ai trouvée dans le Nouvel Obs, de lui, une interview de lui, qui soulignait qu'il y a un mouvement de reflux énorme dans les sciences humaines aujourd'hui, après plusieurs décennies de panculturalisme, où tout était culturel, et donc tout était considéré comme relatif à une culture. Chaque culture avait sa vérité, puis c'est tout, on ne pouvait pas en sortir. Il dit qu'il y a un mouvement de reflux énorme à cet égard, et que les traits communs et fondamentaux de la nature humaine revenaient au premier plan de l'attention. On était obligé de faire à nouveau attention à eux, de leur donner un rôle déterminant, etc. Il soulignait l'importance de cette espèce de révolution dans les sciences humaines par rapport à l'époque culturaliste. Il est sûr que l'exégèse féministe du type Schuster-Fiorenza a accompagné cette période d'hégémonie du culturalisme, et donc nous pouvons nous appuyer dans notre apologétique sur ce reflux d'aujourd'hui, et de toute façon dire que bibliquement, dans la vision biblique, les invariants sont là, les ordres de création, l'unité de l'histoire sous la conduite du Dieu unique, qui a un seul plan pour toute l'humanité, qui dérive d'un seul principe, comme Acte 17 le souligne. Cela, ça fait partie d'une vision biblique que nous pouvons affirmer. Et d'autre part, transcendance du vrai. S'il y a divers langages, diverses situations, divers systèmes symboliques, la vision biblique de l'humain, et je crois que cela se retrouve dans l'expérience la plus élémentaire que chacun peut faire, il y a une référence à un vrai et un juste qui est au-delà de la diversité des situations. Nous nous inquiétons de ce qui est vrai en soi. Nous sommes faits comme ça, et c'est parce qu'il y a un Dieu, en fait, qui nous a créés. Mais on ne peut pas extirper du cœur de l'homme ce sens d'une vérité, sans laquelle d'ailleurs il n'y a pas de sens. Car si chacun est enfermé dans sa propre situation, son propre petit jeu de symboles, tourne dedans comme dans un manège fou, mais rien n'a de sens. S'il n'y a pas une vérité à laquelle cela peut se rapporter. Donc affirmer la transcendance du vrai. Ça me rappelle ce que j'avais entendu, un professeur d'université qui disait, il nie absolument qu'il y ait aucune justice, justice en soi, de principe de justice, au-dessus de tout ce que les hommes confectionnent dans leurs diverses cultures, etc. Et puis l'instant d'après, il s'indigne. Il s'indigne d'une injustice. De choses absolument incompatibles. Mais on ne peut pas ne pas s'indigner. Alors, critère à mettre en œuvre, si on affirme ça, alors ça c'est beaucoup plus difficile. Là, ça devient très délicat dans l'usage, dans une situation tout à fait concrète et déterminée, tel texte biblique, quelle part donner à un conditionnement historique particulier? Que mettre du côté d'un enseignement qui doit traverser les siècles, identiquement à soi, parce qu'il correspond aux invariants de la condition humaine et de la volonté de Dieu pour l'homme? Comment? Quels critères? C'est pas si facile, je reconnais. J'ai parlé d'un Timothée 2 il y a quelques instants. Moi, je suis prêt à accepter que Paul, quand même, a un langage très sec dans Timothée 2, à cause d'une situation un peu pénible à Éphèse, en son temps, je n'écarte pas toute pertinence de la référence à des faux docteurs qui étaient caractérisés peut-être par un certain féminisme. Je n'écarte pas. Mais, en même temps, comme je vois que Paul se réfère à la Genèse, qu'il appuie son argumentation sur une certaine interprétation de Genèse 2 et 3, c'est comme ça que je le comprends en tout cas, ils me disent, il ne peut pas simplement donner un avis relatif à une situation très, très étroitement localisée, puisqu'il se réfère à la création, donc ça a une validité plus large. Même si dans la forme de l'expression, peut-être dans les modalités d'application, la situation concrète en cause est à considérer. Mais, oui, on balance les choses. En général, quand il y a référence à la création, je dirais qu'on peut au moins présumer qu'il s'agit des invariants. Mais on pourra toujours distinguer entre le principe et le mode d'application. Quand il s'agit de choses qui semblent bien assez superficielles, variables d'une culture à l'autre, comme le vêtement et la symbolique du vêtement, moi je dirais a priori qu'il y a au moins présomption que l'application ne sera pas pour nous littérale, mais transposée. Alors dans 1 Corinthiens 11, par exemple, voyez, les deux choses jouent. D'une part, il y a référence à la création, l'homme créé d'abord, etc., etc. Donc je dis, il y a un principe qui a une validité permanente que Paul met en cause. Mais d'autre part, il s'agit d'un élément de vêtement, d'un symbolisme quand même très lié à une époque particulière. Ne pas mettre de voile signifie adopter la tenue des courtisanes. Donc, ça c'est lié au temps particulier. Et il va falloir chercher une autre application du principe au XXe siècle. Mais on n'élimine pas tous les risques dans l'application de tels critères. Donc sachez qu'il y a là tout un art à acquérir et qu'on peut ne pas être tout à fait d'accord. En toute simplicité, légitimité. Alors troisième grand chapitre, enfin paragraphe, dans cette troisième étude, l'équilibre du général et du particulier. Les grandes lignes du message biblique et les passages spécifiques sont à considérer ensemble. D'une part, cette proposition que je vous fais renvoie à l'idée très classique d'analogie de la foi. Et pour bien comprendre un verset, il faut l'interpréter à la lumière de l'ensemble de toute la Bible et des structures clés de l'enseignement biblique qu'on appelle l'analogie de la foi. Mais je fais de cette règle une application un peu plus précise. Concernant le statut, le rôle de la femme, il y a des passages spécifiques, particuliers en particulier. Et nous pensons tout de suite à ceux de l'apôtre Paul. Ces fameux textes sur lesquels on revient toujours, Corinthiens 11, 14, Timothée 2, Éphésiens 5 aussi si on veut. Et je pense qu'il ne faut pas les négliger, en effet, qu'il est normal d'attacher son attention au texte où les auteurs bibliques discutent précisément du sujet sur lequel nous cherchons la pensée de Dieu. C'est sûr, il faut que les passages spécifiques soient vraiment scrutés. Nous pouvons moins facilement nous évader d'un sens biblique qui ne nous plaît pas quand c'est vraiment le sujet qui est traité dans le passage. Cela dit, attention, nous risquons de perdre l'équilibre à ne considérer que ces textes. Et pour bien les comprendre, il faut tenir compte aussi de toutes les autres données, beaucoup plus floues peut-être, beaucoup plus diffuses, mais qui pèsent finalement très lourd. L'ensemble de toutes les données sur la condition féminine dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous en avons dit un mot à propos du livre de Bilétiquien hier, cela pèse aussi lourd. Et je crois, là je laisse percer ce qui est ma propre conclusion, mais je crois vraiment que la thèse traditionnelle, patriarcale si vous voulez, pêche en se concentrant sur les passages spécifiques que je viens de citer et en ne donnant pas le poids voulu à tout l'environnement biblique, à tous les cas de femmes qui ont des rôles éminents, aux grands principes généraux sur la libération que l'Évangile veut apporter. Et il y a une analogie, un parallèle qui, pour moi, vraiment a fait tilt quand je l'ai lu. C'est celui qui concerne l'esclavage. À certains égards, le débat sur la condition féminine aujourd'hui parmi les évangéliques ressemble au débat qui a eu lieu il y a un siècle, ou un peu plus d'un siècle, sur l'esclavage aux États-Unis. Vous avez eu des théologiens évangéliques orthodoxes qui, en s'appuyant sur certains passages précis, passages clés, ont défendu l'esclavage. Des théologiens de valeur. Alors, ils exhortaient les maîtres à être justes, bons, etc. Mais ils ont défendu l'esclavage, ils ont voyé. Éphésiens 6, les esclaves doivent obéir et tout, il n'y a pas de révocation de l'esclavage. En s'appuyant sur des passages spécifiques, isolés, ils ont défendu l'esclavage. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les évangéliques, qui les suivraient. Bon, peut-être faudrait-il dire qu'on a peut-être simplifié les choses, qu'effectivement le mot même d'esclavage est peut-être trompeur. Hein, qu'est-ce que la distinction entre l'esclavage tel qu'il était établi en Israël, qui se terminait à la septième année, avec beaucoup de limitations, si le maître cassait une dent à l'esclave, il était libre, etc. C'était pas l'esclavage comme on en a l'idée. Peut-être. Hein, c'est vrai, mais malgré tout, je crois que nous serons d'accord pour dire que l'abolition de l'esclavage que voulaient quand même maintenir ces théologiens comme le grand Dabney, hein, très grand bonhomme, Dabney, que l'abolition de l'esclavage est une bonne chose et qu'il fallait aller dans ce sens pour être dans la tonalité de la Bible entière. Alors c'est quelque chose qui me fait réfléchir, oui, par rapport à la question au débat sur le féminisme aujourd'hui. D'accord, il y a ces passages spécifiques, il faut les interpréter, il faut leur donner tout leur poids, mais dans l'ensemble biblique, en tenant compte du mouvement global des Écritures. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici, c'est important. Je mets en deuxième point les degrés de probabilité. Là aussi, c'est quelque chose de très général, mais qui s'applique particulièrement au débat sur le féminisme. Il est vraiment très très rare que d'un texte biblique quelconque, on puisse dire le sens est évident. Il n'y a que ça, ça peut vouloir dire que ça. Quand on a pris l'habitude de l'interprétation biblique, comme vos professeurs qui ne sont plus tout jeunes l'ont fait depuis un certain temps, on sait que pratiquement pour n'importe quel passage, il y a plusieurs interprétations. Alors ça ne veut pas dire que toutes les interprétations se valent, qu'à partir de ce moment-là, chacun choisit comme il lui plaît, pas du tout, non. Mais que c'est quand même pratiquement toujours affaire de probabilité. Qu'on pèse des probabilités. Alors dans bien des cas, c'est un sens paraît beaucoup plus probable, et c'est seulement quelques farfelus qui vraiment essayent de s'en écarter. Mais quand même, c'est une question de probabilité à peser. Cela parce que le langage est élastique. On a forgé des langages artificiels dans certains domaines scientifiques justement pour échapper à cette élasticité du langage, à cette souplesse. Le langage est toujours en situation, les mots peuvent avoir plusieurs sens. Donc, on est toujours obligé de peser ce qui est le sens le plus probable, et alors à le faire pour la Bible globalement. Et il faut, je crois, accepter cette contrainte de l'étude biblique. Et puis troisième point, et je conclurai par là puisque je vais terminer à l'heure, attention aux valeurs qu'on invoque dans les débats, comme si le sens était parfaitement clair, on n'avait pas besoin d'y réfléchir, que l'application était évidente. Égalité, l'égalité. Manifestement, le mouvement féministe est très attaché au thème de l'égalité. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement? C'est pas si facile à définir l'égalité. Est-ce que vraiment la Bible est égalitariste? Le mot égalité n'est pas employé souvent. Il est employé à propos de la manne que recueillaient les uns et les autres, et personne n'en manquait, personne n'en avait trop, dit Paul. Il parle de l'égalité à propos de la collecte. Mais autrement, le thème de l'égalité n'est pas présenté, ne ressort pas si fortement. Alors, c'est un thème que notre modernité a souligné, a essayé d'enfoncer à grands coups de boudoir dans toutes les consciences, mais est-ce qu'il ne faut pas y réfléchir? Mais en même temps, moi je vois une fausse piste assez dangereuse. Vous avez aussi le discours, finalement, beaucoup trop facile de dire différent, égaux, mais différents, complémentaires. Et on a pu dire ça aussi bien pour les noirs ou les blancs, pour, en perpétuant toutes les injustices en disant égaux, mais séparés, mais différents. Ça peut être une échappatoire. Donc, il y a vraiment à réfléchir. Il faut être fin et rigoureux. De même pour la notion d'autorité. Si on dit, moi je crois qu'il faut le dire, que les textes font un différentiel d'autorité entre l'homme et la femme, on voit selon le régime ordinaire que Dieu a voulu dans sa création. Qu'est-ce qu'on appelle autorité? Qu'est-ce que l'autorité? Oui, c'est pas si facile à définir. Et puis il n'y a pas seulement la notion même. Il faut quand même protéger, parce que dire aussi l'autorité est un service, ça ne veut pas dire que l'autorité ne soit pas autorité. Mais les modalités d'application. L'autorité d'un roi sur ce sujet, ce n'est pas la même que l'autorité des parents sur les enfants. Elle ne s'exerce pas de la même façon. Et le mode d'exercice colore la manière même dont on appréhende la notion. Alors tout ça, c'est à revoir. Il me semble que dans le débat sur le féminisme, on se jette ces mots, égalité, autorité, sans avoir tenu compte suffisamment de la subtilité de l'interprétation dont ces notions doivent faire l'objet. Voilà donc quelques suggestions. J'ai encore d'autres remarques, mais ce sera pour l'heure de cet après-midi, 16h. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de solution toute faite, mais que nous progressons vers la possibilité de mieux discerner ce que l'Écriture nous enseigne.